Alors ce matin, eh bien, avec vous, je voudrais partager deux courts passages qui se trouvent dans le livre de l'Exode. Donc c'est d'abord Exode 13 au verset 20, où on peut lire ceci. Les Israélites partirent de Soukhot et campèrent à Étain, en bordure du désert. L'Éternel marchait à leur tête, le jour dans une colonne de nuée pour leur montrer le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher de jour et de nuit. Et la colonne de feu se trouvait en permanence à la tête du peuple. Un peu plus loin dans Exode 40, et ce sera les derniers versets du livre de l'Exode, donc c'est Exode 40 au verset 34, où il est dit ceci: « La nuée enveloppait la tente de la rencontre, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait plus pénétrer dans la tente de la rencontre, parce que la nuée reposait sur elle et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. À partir de ce moment-là, et pendant toutes leurs étapes, les Israélites se mettaient en route quand la nuée s'élevait au-dessus du tabernacle, mais aussi longtemps qu'elle restait en place, ils ne bougeaient pas et attendaient pour continuer leur route, qu'elle s'élève de nouveau. Car la nuée de l'Éternel couvrait le tabernacle pendant le jour, et pendant la nuit, du feu brillait dans la nuée, et elle était ainsi visible pour tous les Israélites. Il en fut ainsi tout au long de leurs étapes. » Donc ces deux textes nous parlent du cheminement, en fait, du peuple de Dieu vers la liberté, vers le pays promis. La nuée et le feu symbolisaient donc la présence de Dieu pour son peuple, avec son peuple, de jour comme de nuit. Dieu indiquait à son peuple les moments de départ, mais aussi les moments d'arrêt, les moments où il fallait attendre que la nuée s'élève à nouveau pour reprendre la route. Le peuple progressait par étapes, n'allait pas plus vite ni plus lentement. Quand la nuée s'élève, le peuple avance, et quand elle s'arrête, le peuple s'arrête également. Aujourd'hui, nous sommes le peuple de Dieu, chacun de nous est connu de Dieu. J'ai bien aimé, pendant le temps de louange, l'insistance qui a été mise sur le fait d'être enfant de Dieu. Et nous le sommes, dit la parole. Nous sommes enfants de Dieu et nous le sommes réellement. C'est une affirmation de la parole. Le psaume 139 nous dit que Dieu connaît tous nos gestes, toutes nos pensées, toutes nos paroles. Et s'il est rassurant de savoir que nous sommes aimés, connus de Dieu, cela nous place aussi devant nos responsabilités, tant au niveau de nos pensées, de nos paroles et de nos actions. Ce psaume nous rappelle également que Dieu a sa main sur nous, que nous sommes sous sa protection. Et en Jean 10, Jésus déclare: « Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. » Et au verset 27, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Aujourd'hui, c'est le Seigneur qui est le guide de son peuple. Nous sommes appelés à le suivre. d'une manière individuelle, mais aussi en tant que communauté. La vie de l'Église, avec un E majuscule, ou des églises locales, est marquée par des étapes dans sa marche, par des saisons, par des moments qui sont différents. Le peuple de Dieu progressait ainsi par étapes vers le pays promis, mais ce peuple a connu de grandes bénédictions, il a aussi connu des périodes de combat et des périodes de difficultés. Il en est de même pour l'Église, toujours avec un grand E, et pour les églises locales. Aujourd'hui encore, il y a des temps qui sont des temps de bénédiction, des temps de progression, il y a des temps qui sont des temps d'attente et des temps où le Seigneur travaille les cœurs, travaille profondément. Ce n'est pas que rien ne se passe, mais il y a des temps aussi qui sont des temps de préparation pour continuer le chemin, pour aller plus loin. Et c'est vrai pour l'Église, c'est vrai aussi pour chacun et chacune de nous en tant qu'enfants de Dieu. Que signifie concrètement suivre Jésus? Parce que c'est à cela que nous sommes appelés, à suivre Jésus. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Tout d'abord, individuellement, c'est répondre à son appel. C'est une décision essentielle, radicale pour notre vie. En Christ, nous recevons le salut, la grâce, le pardon, la vraie liberté et la vie éternelle. Toutes ces promesses sont des promesses de la parole de Dieu. Le Seigneur nous invite à le suivre. Et les premiers disciples qui allaient devenir apôtres, Pierre, André, puis Jacques, Jean, Matthieu, et tous ceux qui allaient rejoindre aussi ce groupe d'apôtres, eh bien, il nous est dit d'eux qu'ils laissèrent tout et suivirent Jésus. Ils laissèrent tout et suivirent Jésus. Autant Moïse avait opposé à Dieu un certain nombre d'hésitations pour s'engager, où il avait discuté avec Dieu pour partir et conduire le peuple, autant là, nous voyons les disciples qui se lèvent, qui laissent tout et qui suivent Jésus. L'Église est en marche vers une glorieuse destination. Chaque chrétien est invité à marcher et progresser dans sa vie spirituelle. Et bien sûr, si nous sommes ici ensemble ce matin dans ce lieu, c'est qu'un jour, nous avons personnellement décidé de suivre Jésus. Nous avons pris cette décision, nous avons dit « Oui, Seigneur, je veux te suivre ». Mais je pense que cette décision n'est pas la décision d'une seule journée. Je pense que chaque matin, nous pouvons et nous devons dire au Seigneur « Seigneur, aujourd'hui, je veux te suivre. Je veux te suivre dans mes activités, je veux te suivre dans mes rencontres, dans mes pensées, dans mes projets, dans les décisions qui vont se présenter. Seigneur, je veux te suivre aujourd'hui. » Et chaque matin, nous pouvons renouveler cela, cette décision de suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est aussi, et c'est une évidence, c'est le connaître, c'est connaître Jésus. Je connais mes brebis, Jésus nous connaît, et les brebis me connaissent. Connaissons-nous vraiment Jésus? Connaître, eh bien, c'est quelque chose qui prend du temps. Connaître quelqu'un réellement, ça prend du temps. C'est une question d'établir une relation qui est suivie, qui est profonde. Eh bien, avec le Seigneur, c'est la même chose. Connaître Jésus, ce n'est pas connaître seulement des choses sur Jésus. Ce n'est pas connaître seulement ce qui est écrit de Jésus dans sa parole. C'est établir une relation personnelle, de proximité. Et c'est comme cela que nous pouvons bien connaître Jésus. Connaître son enseignement, bien sûr, mais connaître aussi sa voix. Savoir reconnaître quand Jésus veut nous parler. Ça peut être au travers d'un texte biblique qu'on va découvrir le matin ou redécouvrir. Mais ça peut être aussi par la parole prophétique, comme déjà Dieu a voulu nous parler ce matin. Et puis, ça peut être aussi par des convictions profondes que le Seigneur va mettre dans notre cœur et que nous allons reconnaître que cette pensée qui vient en nous ne peut venir que du Seigneur et pas de nous-mêmes, pas de notre propre chair. C'est Jésus qui place en nous cette pensée. Connaître Jésus, c'est être son disciple. Ce n'est pas être, je dirais, l'adepte d'une religion ou membre d'une association culturelle. C'est être vraiment un disciple de Jésus-Christ. Être un disciple. Suivre Jésus, c'est marcher dans les traces de Jésus. Suivre, ça n'est pas dépasser. C'est une drôle d'affirmation, mais je pense qu'elle est importante dans l'Église. Suivre Jésus, ce n'est pas dépasser. Suivre Jésus, c'est chercher sa volonté. J'entends que vous allez chercher le royaume de Dieu ensemble. Eh bien, c'est chercher la volonté du Seigneur, chercher des indications que le Seigneur veut vous donner en tant que personne, vous donner en tant qu'Église. Suivre Jésus, c'est aller ni trop vite, ni trop lentement. C'est discerner les étapes par lesquelles chaque chrétien doit passer sans faire justement peut-être l'économie de la formation, sans faire non plus l'économie du temps à régler un certain nombre de choses dans notre vie pour pouvoir suivre Jésus en toute liberté. Chaque chrétien est différent. Chaque église est différente. Marcher dans les traces de Jésus, c'est aller pas à pas, étape par étape, résolument, avec foi, mettre sa foi en pratique quand c'est le temps, quand c'est le moment. Mais c'est être surtout attentif à toutes les voix qui s'expriment dans une assemblée. Je veux dire par là que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, tantôt par une personne, tantôt par une autre personne. Vous savez, j'ai fait l'expérience que le Seigneur j'ai été au bénéfice d'un certain nombre de paroles prophétiques dans ma vie de ministère. Et ces paroles sont venues de frères qui venaient d'Amérique du Sud, qui venaient des États-Unis, qui venaient parfois de France également. Et je bénis le Seigneur pour ces paroles dont un certain nombre se sont réellement accomplies dans ma vie. Mais je bénis aussi le Seigneur que parfois, il m'a donné d'être à l'écoute de personnes qui, dans l'assemblée, n'avaient pas l'habitude d'apporter une parole et qui m'ont mis en garde pour telle ou telle chose qui pourrait se produire éventuellement. Et je bénis le Seigneur d'avoir été aussi à l'écoute de personnes qui n'avaient pas coutume, je dirais, d'exercer le ministère prophétique. Alors soyons attentifs à la voix des plus âgés, des plus jeunes, des enfants aussi, qui peuvent apporter quelque chose que Jésus veut communiquer à son peuple. À propos, en parlant de prophétie, j'ai reçu aussi une parole pour cette assemblée ce matin en préparant ce message. Je parlais tout à l'heure du peuple de Dieu qui était en route vers la terre promise. Et dans la terre promise, il y a cette description en Deutéronome 8, Deutéronome 8 et au verset 7. L'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, un pays plein de cours d'eau, de sources et de nappes souterraines. Et le Seigneur a mis mon regard particulièrement attiré sur les sources et les nappes souterraines. Et la pensée que j'ai reçue, que je voudrais vous partager, et que je te soumets, Bruno, bien sûr, ainsi qu'aux responsables de la communauté, c'est que je pense que dans cette assemblée, il y a des sources qui doivent encore jaillir. Qu'il y a encore des personnes qui ont reçu des dons, des capacités qui doivent apparaître, qui doivent sortir, qui doivent jaillir pour l'utilité commune de l'Assemblée. Et en même temps, il y a ces nappes souterraines. Et qu'est-ce que ça représente? Vous savez, dans l'actualité récente, on a beaucoup parlé du manque d'eau et du manque d'alimentation des nappes phréatiques. Eh bien, je pense aussi qu'il est nécessaire d'avoir des nappes souterraines. Et pour l'Église et pour votre assemblée, Seigneur m'a montré que ces nappes souterraines étaient comme des réserves, étaient comme des personnes solides dans la foi, bien établies avec le Seigneur depuis de longues années, et qui sont comme des symboles de stabilité, de sécurité pour l'Église, et que c'est important. Donc, ces deux choses, des sources qui doivent jaillir, mais aussi des réserves qui sont là pour asseoir l'Assemblée dans la stabilité, dans la sécurité. Je reviens au fil de ma pensée par rapport à suivre Jésus. Eh bien, suivre Jésus, c'est de ne pas s'arrêter en chemin. Le psaume 1 nous dit ceci, nous rappelle qu'il ne faut pas emprunter le chemin des pécheurs ni des moqueurs, mais sur les traces de Jésus, gardons les yeux fixés sur lui. Dans tous les moments, même les moments les plus difficiles, des circonstances difficiles, que ce soit personnelles ou pour l'Assemblée, sachons que Jésus est là. Et je le répète encore, et ça a été dit plusieurs fois ce matin, je vais encore avoir le plaisir de le répéter, nous sommes ses enfants. Nous sommes ses enfants. Et l'Église est aussi son Église, qui, sans aucun doute, doit encore se perfectionner, c'est évident. Mais c'est son œuvre, c'est sa volonté. C'est Jésus qui a institué l'Église, qui l'a voulu, et il est certain qu'il en prend soin. Vous savez, entre pasteurs, on a souvent eu l'habitude de dire, tiens, cette assemblée, c'est l'église de Bruno, c'est l'église d'Antoine, ah, c'est l'église de Pierre, à Moucron, par exemple. Hein. Mais ce qui est important, c'est que c'est l'église de Jésus-Christ. C'est pas l'église d'une personne, évidemment, on le sait bien. C'est plus facile pour se repérer. Mais en fait, c'est l'église de Jésus-Christ. Et ça, c'est important. C'est son église, il l'a voulu, il l'aime. Son Église. Il a donné sa vie pour son assemblée. Donc c'est important. Suivre Jésus, c'est parfois aussi reprendre la route. La parabole du fils prodigue en Luc 15 nous éclaire. Et si pour un temps nous connaissons des frères, des sœurs qui se sont éloignés du Père, sachons et ayons confiance en priant, en intercédant pour ces frères et sœurs, qu'il y a toujours la possibilité de revenir sur le bon chemin. Toujours, toujours. Le fils prodigue a quitté sa famille, il s'est cru libre. Et à un moment, eh bien, au moment où l'argent était dépensé, était parti, les amis étaient partis également. Tiens, c'est curieux. Les amis étaient partis en même temps que l'argent. Et il n'avait à un moment plus le moyen de survivre, de vivre, de pourvoir à ses besoins les plus basiques, les plus nécessaires. Alors, il s'est mis à réfléchir en lui-même. Il s'est levé, il a repris le chemin de la maison vers son père en se disant, eh bien, il n'y a pas de problème, je serai serviteur. Je serai serviteur chez mon père. Je ne prendrai que cette place-là. Et en fait, il a été chaleureusement accueilli par son père qui n'attendait que son retour, qui le guettait sur le chemin, qu'il a vu arriver au loin. Et il pensait être considéré comme un serviteur, mais il a retrouvé sa position de fils. Et parfois, nous pouvons être, même dans l'assemblée, je dirais présent de corps, mais où notre cœur s'est éloigné du Seigneur. Eh bien, si c'est le cas, remettez-vous en question, rentrez en vous-même, comme l'a fait le fils prodigue, en sachant que le Seigneur est toujours prêt à nous accueillir à nouveau auprès de lui, non pas comme des étrangers, mais comme des fils et comme des filles, parce que nous sommes ses enfants. Amen. Suivre Jésus, c'est le servir. C'est le servir. L'apôtre Paul écrit, nous sommes son ouvrage et nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Alors suivre Jésus va revêtir différents aspects en fonction, servir Jésus, pardon, va revêtir différents aspects suivant les dons, les capacités que nous avons reçues, mais qui sont toujours pour l'utilité commune. Ce qui est important, ce n'est pas la quantité d'actions que nous menons, d'activités que nous entreprenons, ce n'est pas une addition d'activités, ce qui est important, c'est le cœur que nous mettons à servir Jésus. Et nous allons le servir, je dirais, à l'image de Jésus, c'est-à-dire avec humilité, mais aussi avec l'autorité que Dieu nous donne. Et les deux choses ne sont pas incompatibles du tout, l'humilité et l'autorité. Parce qu'en Jésus, il y avait cet exemple d'humilité, mais aussi d'autorité. Jamais les gens n'avaient entendu quelqu'un enseigner comme Jésus, parce qu'il enseignait avec autorité, mais il était aussi doux et humble de cœur. Donc il y a les deux aspects qui sont là, et dans notre vie de service, il doit y avoir aussi ces deux aspects. Être humble en sachant que c'est le Seigneur qui est tout, c'est le Seigneur qui permet tout, c'est le Seigneur qui accomplit tout au travers de l'Esprit de Dieu, mais nous devons aussi exercer cette autorité qui nous a été déléguée par Jésus. Et les premiers disciples exerçaient aussi leur ministère avec autorité. On voit Pierre et Jean à la porte du temple. Eh bien, ils le font, mais ils le font au nom de Jésus. Ils le font parce qu'ils ont reçu cette autorité déléguée de Jésus. Alors, servir, bien sûr, c'est dans le cadre de la communauté, mais c'est aussi servir dans notre vie quotidienne auprès de notre famille, de nos familles, dans nos relations, dans notre vie professionnelle, notre témoignage de vie, de foi et aussi de comportement. Dieu sera servi, nous servirons Jésus-Christ par le débordement d'amour qu'il y a dans notre cœur pour lui. C'est ça qui va nous permettre de servir. Et nous aurons alors, si nous avons ce débordement d'amour pour Jésus et pour les autres, nous aurons alors un service fructueux pour le Seigneur. En conclusion, je prendrai ce verset de l'évangile de Jean au chapitre 8 et au verset 12. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alors, mes frères, mes sœurs, ce matin, je voudrais vous dire simplement, ne cessez pas de suivre Jésus. Mais suivez-le, marchez dans ses traces, parce qu'il est notre guide, parce qu'il est un berger. Suivons-le avec humilité. Il est la lumière qui nous guide sur le chemin. Si parfois vous avez été tenté d'aller trop vite, plus vite, eh bien, et que les choses se sont peut-être mal passées, eh bien, revenez dans les traces du Maître. Je pense que c'est là où on est le plus en sécurité, dans ses traces. Si pour un temps vous avez peut-être suivi vos propres voies, vos propres pensées, revenez dans la volonté de Dieu et vous serez pleinement accueillis par votre Père. Quand on est arrivé tout à l'heure, il y a Nathalie qui nous a parlé, à Chantal et à moi, d'un chant qui s'appelle « En avant ». Alors ça me faisait sourire, parce que je savais ce que j'allais dire ce matin. Donc, je n'ai qu'une chose à dire pour suivre Jésus. En avant. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.